Bonjour, bonjour et bienvenue à ceux qui nous écoutent ici et ailleurs dans le monde et voire dans l'univers. La Réunion de Religion en compagnie de notre rabbin de l'île de la Réunion, le grand rabbin Mendel Siboni, le père Payette qui est là, bonjour père Payette, et l'imam Mohamed Bana qui sont là fidèlement à l'émission et je les remercie bien grandement. Bonjour messieurs. Merci.
Merci Eric.
Alors aujourd'hui, le thème, on va parler de la femme dans les religions respectives. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va peut-être briser quelques verres, quelque chose. Donc moi je vais commencer avec une petite introduction pour dire que si on est là, c'est parce qu'on a une maman qui... Personne ne serait de ce monde. Hein, ou... Après, ça dépend des religions aussi, hein, on verra ça. Mais on a tous une maman, on a tous une grand-mère. Et si on est là, c'est parce que la femme, enfin, ces femmes, elles ont eu, un jour elles ont accouché, et puis nous, on est là. Donc voilà, ce sont des personnes qu'il faut vraiment respecter, adorer, vénérer, parce que ce sont nos mamans, ce sont nos grand-mères, ce sont nos sœurs. Nos enfants, nos filles. Donc voilà, moi c'était ma petite introduction pour dire merci à nos mamans qui sont là, ouais, qui sont pas là non plus, à nos sœurs, à nos enfants, nos filles. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une petite introduction à ce sujet-là?
Je peux rajouter quelque chose, oui. Hein, parce que finalement, on vit aujourd'hui dans un monde de femmes, hein, finalement. D'ailleurs, enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais un grand bravo. Il y a 6 femmes élues maires à La Réunion, ça fait quart du monde politique. Alors, on ne parle même pas de la présidente de la région, etc. etc. Enfin, ça n'a rien à voir, mais et on n'a pas la prétention, je ne sais pas, tout le monde, de parler pour, au nom des femmes. Hein. Donc, on est là pour présenter
cette. Voilà.
Moi, je vais vous dire, franchement, j'ai la pression, d'ailleurs, et de parce que on a peur. Hein. Nous, on est des grands prêtres.
On est
des grands prêtres, peut-être. Là, on fait un peu notre intéressant là, mais on a peu de nos mamans et surtout on a peu de nos femmes. Je pense que.
Voilà. Moi, j'ai pas de femme, ça règle la question.
Je dirais que c'est pas une peur, c'est un respect qu'on a parce que
c'est ça.
S'énerver pour dire n'importe quoi, ça aide pas non plus, quoi.
C'est clair.
Donc, nous avons, mesdames. Le plus grand respect pour vous, sachez-le. Et c'est une émission spéciale pour vous, parce que, effectivement, comme disait Mohamed, on a 6 femmes maintenant qui sont mères. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont à des postes très, très, très importants dans le monde. Et félicitations à elles et bon courage, parce que, d'après ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est pas tous les jours facile pour elles. Donc là, on va voir ce qui se passe. Ce qu'en disent les religions, hein, selon certaines choses qui vont un petit peu blesser ou pas, on verra ce qui va se passer, hein, parce que des fois il y a des choses qui sont pas comprises ou mal comprises, hein, quelles que soient les religions. Hein. Et c'est pour ça qu'on va commencer à ouvrir un petit peu, vraiment très très peu, ces discussions, parce qu'il faut vraiment des semaines et des semaines de discussions concernant nos dames, nos femmes. Alors, je vais commencer au commencement, comme on dit, avec comment les récits de création, Ève, donc Ève, c'est
Adam
la femme,
et Ève.
Adam et Ève, la femme d'Adam, hein, c'est vrai. Sont-ils perçus dans la religion juive, la religion catholique et la religion musulmane? Donc,
selon la Bible.
Selon la Torah, pour la religion juive, Adam et Ève, c'est perçu
Adam
comment?
Alors, c'est vrai qu'il y a une. Quand on lit le texte, il peut avoir une malinterprétation que dans le judaïsme, à travers Rashi, qui était un commentateur français il y a plus de 1000 ans, qui tout de suite il explique que quand on lit le texte, on voit que Dieu a créé l'humain masculin féminin, comme ça c'est écrit. Zahar on Nekevel a créé l'humain masculin féminin. Et après dans les versets un peu plus tard, c'est écrit que il a pris une partie de Adam et il a créé la femme. Donc on peut penser que La femme a été créée en deuxième, après l'homme, à partir de la côte de l'homme. Sur ça, en fait, l'explication, c'est pas ça. C'est que Dieu a créé l'homme et la femme en même temps, les deux. Quand il a créé l'humain, il a créé un humain. C'était l'homme et la femme. Sauf qu'ils étaient collés, en fait. Les deux, ils étaient collés dans le dos.
C'est comme ah, si dans, c'était, dans le dos, d'accord. Voilà, okay.
Yeah. Pas comment expliquer, mais ils étaient collés dans le dos. Ils étaient une seule personne, mais qui se donnait dos. Donc, ils se voyaient pas. Donc, l'homme, il savait pas qu'il y avait une femme. La femme, elle savait pas qu'il y avait un homme.
Et comment il faisait pour marcher, manger? Comment il faisait pour vivre?
Non, mais c'était... Ouais, quelques, voilà, ni quelques moments. Juste après, finalement, Dieu, il dit, c'est pas bien que l'homme, il soit tout seul. Finalement, il sait pas que sa femme, elle est là. Donc, il a séparé, c'est pour ça que c'est écrit de la côte, il a séparé l'homme et la femme de la côte. Il les a séparés pour en faire deux personnes. Et là, ils se sont vus pour la première fois.
Donc vous, dans votre religion, dans le judaïsme, c'est qu'ils étaient dos à dos, alors?
Dos à dos, pendant quelques instants, le temps de la création. Mais les deux, ils ont été créés en même temps. Il n'y a pas eu l'homme avant la femme. La femme qui est venue après.
Ah, d'accord. Vous, c'est arrivé en même temps et après, on a séparé.
C'est ça.
J'avais une question pour
bien sûr.
Entamer. Comment on dit Adam et Ève en
Adam, langue oui. Adam, c'est Adam. Adam. Et Chava,
c'est Chava.
Chava.
Adam et Chava.
Adam et Chava.
Adam, vous, c'est Adam et Ève hein, en oui. latin. C'est...
Adam et Ève.
D'accord. Et bien, nous, c'est Adam et Hawa. Donc, voilà.
Chez les catholiques, alors, Adam et Ève. Qui est, est-ce qu'il y a un ordre? Comment ça s'est passé?
La poule, c'est ça?
Peut-être, mais... Ah, ouais.
Très bonne question.
En
encore
qui est la poule, qui est l'œuf?
Voilà, c'est ça. Un sujet pour la prochaine fois.
Voilà. Non, on ne suit pas forcément l'interprétation de Rashi, mais même si on l'entend, mais simplement, on reste plutôt assez proche du texte, en tout cas dans sa compréhension première, qui peut être une mauvaise interprétation, en tout cas si on le comprend comme étant un ordre de supériorité. Dire finalement que Adam, l'homme, au sens de masculin, et avant la femme, que la femme soit prise de son côté, pour nous, n'a pas d'incidence sur le fait que, en tout cas ça ne voudrait pas dire que l'homme serait supérieur à la femme, la dominerait, parce que ça vient après le péché. Voilà. Il y a au contraire une égalité, et nous on joue beaucoup sur le fait os de mes os, chair de ma chair, sur le fait que justement c'est la même humanité que moi, et elle est égale à moi finalement en tant qu'homme. Ça, qu'un peu importe qu'elle rentre, qu'elle soit créée au exactement au même moment, point de vue chronologique ou au point de vue ou pas.
Voilà. Donc cette interprétation, elle rejoint un petit peu le côté juif, parce qu'ils sont collés, donc du coup,
ils sont égaux, totalement égaux.
Oui, tout à fait. Hein. Et chez les musulmans, comment ça se passe? Alors Adam et Ève. Ève,
alors,
Adam.
On va dire, il y a, comme partout, il y a des divergences de sujets. Il y a aussi un peu cette interprétation qui rejoint qu'ils ont été créés par la même boue. Mais d'après le verset du Coran qui est là, il dit les humains créent votre Seigneur qui vous a créé d'une seule personne. Donc c'est celui qu'on va retenir. Donc chez les musulmans, Hawa, donc Ève a été créée d'une côte, là, celle-là, plus précisément, celle qui est la plus proche du cœur finalement, pour plusieurs raisons, pour qu'elle soit égale à l'homme, pas au-dessus, pas au-dessous, pour qu'elle soit pas supérieure ou inférieure, et surtout près du cœur. Pour qu'elle soit aimée tout simplement. Voilà.
Donc la première femme, c'est Ève.
Exactement.
Toute l'humanité vient de là. Alors
on est d'accord sur ça. Adam et Chava.
Adam et Ève. Donc là, les trois religions, on est d'accord.
Bien entendu.
C'est la même.
C'est la base.
La même essence, la même base. Hein. C'est Adam et Ève qui ont été séparés à un moment, soit dos à dos, soit avec la côte.
Oui, du côté.
Du côté. Bien. Alors là, on va rentrer dans un petit truc un peu plus compliqué. C'est quel rôle la femme occupe dans la pratique religieuse, c'est-à-dire prière, participation et rite, accès aux espaces sacrés, dans chacune de vos religions.
D'ailleurs, la synagogue, ils ont un espace pour les dames, c'est exceptionnel, hein, avec le petit bain et tout et tout.
Oui, ça c'est
ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais, hein, on a pu
le bain rituel. Visiter.
Mon père Payette, mon père Sébastien. Alors. La femme dans l'église, chez les catholiques, c'est quoi son rôle et comment elle participe?
Bon, c'est très simple, la femme, elle participe exactement comme l'homme, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de lieu consacré aux femmes ou consacré aux hommes, à proprement parler, excepté pour la partie, je dirais, du sacrifice ou du ministère sacerdotal. Voilà. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas accès au ministère ordonné de diacre. C'est encore en question aujourd'hui. C'est un peu d'actualité, mais en soi, normalement, elles n'ont pas accès au diaconat, et ni à la fonction proprement presbytérale ou sacerdotale, à savoir être prêtre ou évêque.
Donc elles ne peuvent pas faire la messe, alors.
Elles ne peuvent pas célébrer la messe. Elles concélèbrent, elles célèbrent comme tout le peuple de Dieu, mais elles n'officient pas en tant que prêtre. Voilà. En tout cas, ordonnées.
Ça, c'est une.
Et comme les hommes qui ne sont pas prêtres ne participent pas non plus. En fait, c'est pas tellement une question d'interdire les femmes de faire quelque chose. C'est que parmi ceux qui sont choisis pour le sacerdoce, ce sont des hommes. Et donc, ce sont eux qui, ceux qui ont été choisis, qui célèbrent.
Est-ce qu'elles peuvent donner l'hostie, par exemple?
Si, elles peuvent, elles peuvent porter la communion, donner la communion. Elles peuvent faire les lectures, entrer dans le chœur. Dans certains, selon au choix du curé, les filles peuvent servir la messe comme les enfants de chœur, comme on dit. Voilà, il y a des servants d'hôtel et des servantes d'hôtel, ou des servantes de l'assemblée. Mais l'idée étant, de toute façon, que elles peuvent, en soi, fondamentalement, rien ne les empêche de vivre la prière, la participation aux différents éléments de la vie de prière, comme les hommes. Elles peuvent prêcher aussi, mais en dehors de la messe, comme un laïc homme peut aussi prêcher, mais en dehors de la messe. Voilà, faire une prédication. Et voilà, c'est seulement la partie, je dirais, vraiment propre au ministère du prêtre qui est réservée aux hommes, à certains hommes du moins, qui sont appelés. Voilà.
D'accord. Chez les juifs, chez vous, mon rabbin Mendel. Alors, comment ça se passe chez vous? Parce que. Est-ce que les femmes ont le droit de faire quoi ou de voilà de pendant vos prières pendant
rien faire
pendant vos rites?
Non, alors il y a aucune différence au niveau de la foi, de la religion, c'est la même chose, hommes et femmes. Par contre, comment Moïse, à travers Dieu, nous a donné la Torah, il a fait une grande distinction entre les hommes et les femmes au niveau de la pratique de la religion. Dans la Torah, je vais essayer de faire rapide, mais c'est que c'est
pour expliquer ça. Vas-y, un peu là, pour une fois qu'on peut en parler, vas-y, on t'écoute.
Dans la Torah, on a les commandements positifs, les commandements négatifs. Okay, il y a 248 commandements positifs qu'il faut faire. Il faut faire le Shabbat, il faut manger kasher. Et 365 commandements négatifs. Il ne faut pas faire ça, je n'ai pas le droit de manger ça et je n'ai pas le droit de travailler Shabbat, par exemple.
Ouais.
Donc 365 négatifs et 248 positifs. Sur les négatifs, tout le monde, c'est la même chose. Personne n'a le droit de faire. Homme, femme, c'est égal. Pour les actions positives, pour les commandements positifs que je dois faire, là, il y a une distinction. Tous les commandements qui dépendent d'un temps, d'un moment, ça veut dire que c'est un commandement qui se fait que à telle heure, que le matin, que le soir, et bien à ce moment-là, les femmes sont dispensées de faire ces commandements. D'accord.
C'est quoi ces commandements?
Par exemple, prenons l'exemple de la prière qu'on fait tous les matins. Ou par exemple, on a les phylactères qu'on met tous les matins quand on fait la prière. Ou le châle de prière. Ça, la Torah, elle précise que ça se met en journée, le matin. D'accord. Ça se fait pas le soir. Je mets pas mes phylactères le soir.
C'est quoi
Les phylactères? Les téléphilines qu'on met sur le bras, boîtier noir avec des
trucs.
Voilà.
Et ça, vous faites ça tous les matins?
On fait ça tous les matins.
D'accord.
Et donc ça, la Torah, elle précise que ça se fait le matin, à partir du lever du soleil. Je peux le faire jusqu'au coucher du soleil, mais il faut le faire en général avant midi. Donc ça, puisque c'est régi par un horaire, la femme n'a pas obligation de le faire.
Mais si elle a le temps, elle peut le faire chez elle ou bien...
Non, c'est pas une question de temps, c'est qu'elle n'est pas obligée, elle n'a pas l'obligation de le faire. Son commandement.
Elle veut, elle peut le faire, ou pas.
Alors, c'est pas interdit de le faire.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
C'est
pas interdit de le faire, mais dans les faits, personne ne le fait. Parce qu'elle n'a pas l'obligation. C'est que les hommes qui le font.
Aucune femme ne le fait.
Voilà.
C'est surtout les hommes. Et
c'est les hommes, parce que c'est eux qui ont l'obligation de le faire.
D'accord.
Comme la prière aussi, c'est la prière du matin, de l'après-midi, du soir. Donc, la femme n'a pas l'obligation de venir à la prière du matin. Maintenant, est-ce qu'elle veut prier? Bien sûr qu'elle peut prier. Mais elle n'a pas l'obligation. Maintenant, elle a le devoir, bien sûr, de prier Dieu quand elle a besoin de quelque chose et de demander, de remercier Dieu d'une manière générale. Mais elle n'est pas régie par tout ce qui est horaire, temps dans la journée. Sauf une exception, c'est pour le Shabbat. où elle a l'obligation de respecter, même si que ça dépend d'un horaire, le Shabbat, mais c'est une exception. Sinon, tout le reste, dès que la mitzvah, elle dépend d'un horaire de la journée, d'un temps, là, elle n'a pas l'obligation de le faire, ce qui fait une grande différence dans la pratique. C'est-à-dire que la femme, elle est beaucoup plus libre, finalement, dans sa pratique religieuse au jour le jour. Elle n'est pas régie, limitée par des horaires, des temps, des jours. Une des raisons, c'est parce que la femme, sa foi, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle. Donc elle a moins besoin de la travailler, d'avoir à la bloquer avec des horaires, de dire il faut venir telle heure, il faut faire ci à telle heure. Donc le judaïsme.
Mais elle peut se rendre quand elle veut à la synagogue aussi, non ?
Elle a le droit de rentrer à la synagogue, bien sûr. Elle peut se rendre quand elle veut. Et c'est bien au contraire qu'elle vienne aux prières. Mm-hmm. Mais elle n'a pas l'obligation. C'est très différent d'être obligé de venir pour la pratique que de ne pas être obligé.
Et est-ce qu'elle, elle peut aider à.
Participer à l'office ?
Oui, participer à l'office. Ouais. Donc comment ça se passe ? Ouais.
Puisque elle n'a pas l'obligation de faire, elle a une obligation qui est moindre, donc elle ne peut pas faire. Pour moi, par exemple, l'officiant, quand il fait la prière, il fait la prière en même temps pour les fidèles. Il est rend quitte, c'est-à-dire il fait à leur place. Quelqu'un qui ne sait pas lire, par exemple, il écoute l'officiant et il est quitte de la prière. Il se rend quitte par l'officiant. Pas tout le monde sait lire, surtout à l'époque, encore moins.
Ouais,
donc, l'officiant, il était là pour rendre quitte tout le monde. Maintenant, une femme, puisqu'elle n'a pas l'obligation, elle ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui a une obligation. Parce que c'est deux niveaux d'obligations différentes. Par contre, il y a des commandements. Par exemple, une femme, elle peut rendre quitte une autre femme parce qu'ils ont le même niveau d'obligation.
Elles peuvent faire ça à la maison et...
À la maison, elles peuvent faire à la synagogue aussi.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Après, à la synagogue, il y a une autre question de séparation homme-femme. C'est pour une autre question. C'est pas par rapport à l'obligation, mais c'est pour une autre question qu'on sépare les hommes et les femmes. Mais c'est encore autre chose.
À la synagogue, elles peuvent faire le ménage, à manger, ou bien comment ça se passe ? Elles peuvent circuler librement dans les... Je sais pas, je demande.
Est-ce qu'elles personne peuvent... fait le ménage à la synagogue, c'est pas.
Non, manger. Je sais pas, je demande.
Oula.
Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je veux dire parce que c'est possible.
Non, elle vient à la synagogue comme les hommes pour prier. Elle a le même livre de prière, elle fait la même prière. Sauf qu'elle, elle est pas obligée, elle vient si elle a envie.
Mais c'était pas dégradant ce que je voulais dire.
C'est une question d'obligation.
Dessus, voilà, hein.
Non.
Après, bien sûr que tout le monde vient à la synagogue. Après, je dis qu'il y a une séparation dans les synagogues pour le moment des prières, seulement pour le moment des prières. Au moment où on fait les prières, on sépare les hommes des femmes. Déjà parce que dans le temple du roi Salomon, et le deuxième temple, c'était comme ça. Il y avait un étage, les femmes étaient au-dessus, les hommes étaient en bas. Question de pudeur qu'on séparait les hommes et les femmes. Et même Moïse dans
le désert. Chez les musulmans.
Voilà, même Moïse dans le désert, quand il rassemblait les hommes et les hommes et les femmes pour faire ses discours, et ben, il séparait les hommes et les femmes. Voilà. Et après, il y a une autre question plus pratique. C'est pour ça que pendant les prières spécifiquement, on a une séparation.
Ouais.
Ou en haut, ou vraiment pour séparer. C'est que les cheveux de la femme, une femme mariée, elle doit se couvrir les cheveux. Que ses cheveux, c'est sa nudité. C'est comme si qu'elle est nue. D'après la Torah.
Donc on les rejoint aussi là-dessus.
Donc effectivement, imaginons, moi je vais faire ma prière, il y a une femme qui n'a pas les cheveux couverts parce que pas tout le monde se couvre les cheveux. Je ne pourrais pas faire ma prière à côté d'elle. Donc pour éviter, moi je ne veux pas lui obliger à se couvrir les cheveux.
Mais vous faites ça sur le même lieu, mais séparé quoi.
Voilà, ouais, exactement. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème.
Chez les musulmans, alors, sur les rites, sur la prière, comment ça se passe ?
Donc pareil, hein, mêmes obligations, mêmes interdictions, quelques obligations au moins. Par exemple, venir à la mosquée, c'est pas obligatoire pour les femmes. La prière de l'Aïd, c'est pas obligatoire pour les femmes. L'accès à la prière. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, nous avons des mosquées, aujourd'hui en majorité, on va dire, en guillemets, qui sont ceux qui ont construit ces mosquées sont d'origine indienne, d'accord, Hanafi. Hanafi, c'est une école juridique parmi quatre. Bon, on va pas rentrer dans le détail.
Ouais, une autre fois.
Ouais. Dans tous les cas, on va dire que ces institutions-là, aujourd'hui, depuis 10, 15 ans, elles ouvrent, leurs portes aux dames. Donc, il y a une salle qui est séparée, comme la synagogue. Donc, les femmes peuvent venir prier indépendamment de l'imam. Donc, dans la journée, si elle travaille, elle est en ville, je sais pas, n'importe quoi, elle vient, elle prie, il n'y a pas de souci. Par contre, donc, il n'y a pas de prière en congrégation dans ces mosquées-là. Il y a, on va dire, un genre de psychorigidité indienne. Bon, c'est culturel, on va dire, c'est normal. Mm-hmm. Donc ensuite, on a d'autres institutions comme les Comoriens, Maoré, Shafit, d'accord, ouais, plutôt. Ouais. Voilà,
d'autres écoles, ouais.
D'autres écoles qui sont ouvertes. Sont totalement ouverts, donc ils prient toutes les prières en congrégation, donc pour les hommes et pour les dames, bien entendu dans un espace séparé, et même pour la Eid. D'ailleurs, pour la Eid, ça commence à s'ouvrir, par exemple dans les prières communales, hein, par exemple, je sais pas si vous avez vu, on fait la prière enfin, il y a certaines associations qui organisent des prières au Vélodrome, ou bien, je sais pas, à Saint-Pierre, je sais pas c'est où. Donc ça aussi, ça commence à ouvrir, vu que c'est un terrain communal, les femmes, elles demandent à venir maintenant. Et par exemple, mon association, ben, on fait tous les ans la demande, et les femmes viennent cette année, ils étaient à peu près 200 à venir prier au Vélodrome, alors qu'avant, il y en avait zéro.
Parce que là, dans l'ordre, c'est les hommes devant, et les femmes, elles sont quand même toujours derrière, donc du coup...
Oui.
Elles peuvent venir, elles sont derrière, donc on les voit
elles
pas.
Non.
Mais voilà. Après, ça, au début, ça se mélange un peu, ça cause comme partout, hein. C'est comme une église, hein, ça cause au début.
Voilà.
Silence de cathédrale.
Ne veut pas trop causer. Bon.
Et après, donc, les hommes sont devant et les femmes.
Donc il y a le mari et les garçons qui vont du côté homme et les femmes qui.
Voilà. Bien, bon, on va écouter une petite chanson que j'ai retrouvée en cherchant, une chanson sur les mères juives. N'est-ce pas? Parce que j'en ai connu pas mal, même toutes les mamans sont un peu comme ça, hein. Mais cette chanson-là, c'est une chanson de Georges Moustaki, qui date de pas mal d'années, et ça s'appelle « Les mères juives ».
Mon fils, tu as mauvaise mine, tu devrais prendre soin de toi, n'oublie jamais tes vitamines, couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates, tu as mis la bleue avec des pois. Quand tu es venu pour le Shabbat, pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois bien excessives, les mères juives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères juives. Ta femme est presque une gamine, comment peut-elle veiller sur toi? Elle ne sait même pas faire la cuisine, heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères juives. Tandis que moi je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères juives. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont tendres et naïves, les mères jouent. Quand ma petite mère parlait ainsi, je trouvais ça insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
La réunion des religions, aujourd'hui, que ce soit une mère juive, une mère catholique, une mère musulmane, une mère hindoue, ce sont toutes des mères. Donc aujourd'hui, on fait un spécial, moi j'appelais ça la femme. Et si vous voulez nous passer un petit coup de fil, c'est le 0262 23 20 20, ou nous envoyer vos questions sur la page Facebook. Et là, on va regarder, on va essayer de vous répondre assez rapidement durant l'émission. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les fonctions religieuses de nos sœurs, le rabbinat, est-ce qu'il y en a? Le sacerdoce, comment ça se passe pour nos sœurs? Et puis, l'imamat, comment ça se passe aussi pour... on va commencer par toi, Mohamed, oui. Comme ça... Alors, comment ça se passe les études pour les femmes? Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire? Explique-nous un petit coup comment elles sont formées, si elles sont formées d'ailleurs.
Ah, bien sûr. D'ailleurs, faut comprendre bien l'historique, que la plus grande juriste, Muftiya, finalement, de l'islam, c'est une femme. C'est une des épouses du prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est Aïcha. Aïcha, qui était une des épouses du prophète, et c'est la plus grande juriste de l'islam. Donc il faut savoir que les compagnons, ils venaient voir Aïcha, d'accord, pour des questions précises. Donc bien entendu, il y avait cette règle de non-mixité, etc., des rideaux, etc. Mm-hmm. Et voilà, donc déjà premièrement. Deuxièmement, si on regarde dans l'histoire, au 9e siècle, je ne sais plus la date exacte, la première université au monde qui a été créée, c'était au Maroc, par Fatima Al-Fihriya, dont vous pouvez le regarder. C'est cet endroit-là, ça fait partie des lieux protégés par l'UNESCO. Donc la première université finalement du monde, enfin ce système universitaire, a été créé par une femme musulmane.
C'était madrasa, c'est ça, c'est une grande madrasa.
Oui, on va dire ça comme en ça, français, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait les maths, il y avait plusieurs choses, la philosophie, il y avait tout. Okay. Bien entendu. Donc, oui, bien sûr, les femmes, d'ailleurs, il y a plusieurs écoles à La Réunion qui les forment. Mmh. Et donc, pour être, en guillemets, une savante, finalement.
En arabe, c'est Maulana.
Alima.
Alima, pardon. Voilà. Maulana, c'est toi. Elle, c'est Alima.
Oui, c'est ça. Voilà. Alima. Donc, d'ailleurs, toutes les questions-là, j'ai envoyé ces questions-là parce que j'avais la pression. Je ne vais pas répondre pour elle. Je les ai envoyées, mais par respect, et vraiment,
toujours le respect avant.
Elle nous a dit non, mais c'est toi qui réponds. Pourquoi on va répondre par modestie, alors que y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calés que nous, on va dire. Hein, donc,
voilà. Ça dure combien de temps? Et après, qu'est-ce qu'elle peut faire ou pas faire?
Elles peuvent tout faire, bien entendu, comme chez nos amis les juifs là, on peut pas, elles peuvent pas juste ne pas diriger la prière, mm-hmm. parce que déjà c'est pas obligatoire pour elles, hein. Donc quelqu'un qui n'a pas une obligation ne peut pas contribuer à l'obligation d'autres personnes. Et après, bien entendu, il y a beaucoup de questions de pudeur, etc., de séparation, non-mixité, etc. Après, entre femmes, elles peuvent le faire, hein, il n'y a pas...
Oui, elles peuvent très bien se réunir et parler d'un sujet ou de sujets.
Ah, mais ça se fait déjà.
Oui, c'est ça.
Ça se fait déjà, bien sûr.
Elles peuvent très bien se rencontrer. Ben,
dans les écoles islamiques, à La Réunion, il y a un cursus, c'est majoritairement que des dames. Hein, donc, voilà, de mon âge d'ailleurs, plus jeune aussi.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Saint-Denis a beaucoup de petites madressas pour les dames.
Bien sûr, au port, okay. Saint-Paul. Maintenant, c'est devenu assez... assez concrétisé. Voilà.
Mon père Payette, père Sébastien, pour vous, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Et elles ont le droit de faire quoi après? Parce que je sais, parce que j'ai ma tante qui est religieuse, hein. Elle est enseignante, faisait l'école en école primaire. Oui. Mais c'est pas tout, elles font pas tout ça. Elles sont pas toutes. Il y a aussi des congrégations un peu particulières.
Alors, c'est ça. Oui. Je pense que la réponse, elle doit être un peu différenciée en fait, selon ce que l'on veut, ce dont on parle. La partie liturgique, j'en parlerai dans un instant. D'abord sur l'aspect de ce que du travail, d'un métier. Ben, les femmes peuvent faire exactement ce que fait un homme, c'est-à-dire il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Donc les études et le cursus. Universitaire, scolaire, universitaire, il est le même. Il n'y a pas de spécificité. C'est vraiment, elles peuvent vraiment tout faire, je dirais, selon ce qu'elles souhaitent. Et la plupart des universités ou des écoles sont mixtes, même s'il peut y avoir des universités ou des écoles pour filles ou des écoles pour garçons. Mais c'est plus un choix c'est pas lié forcément à une supériorité ou à une spécificité. Voilà, c'est vraiment. Donc c'est très très simple. Moi, quand j'ai fait mes études à l'université, même pendant mes études de religieuses, hein, j'avais des laïcs, donc des femmes qui n'étaient pas consacrées, certaines étaient mariées ou d'autres, pas encore, et d'autres qui ont été des religieuses. Alors, on va en parler maintenant des religieuses. Une femme peut, comme un homme aussi, hein, entrer dans une communauté, une congrégation, vivre comme ici à La Réunion, par exemple, pour que ça puisse parler aux gens. On a des communautés qui sont cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles ne sortent pas, elles restent au monastère. Et à Saint-Denis, on a les moniales dominicaines à la colline du Rosaire, du côté du boulevard de la Providence. On a aussi le Carmel des Avirons, aux Avirons. On a aussi des religieuses qui sortent, qui ont une activité, une caritative, elles soignent les malades, elles s'occupent d'une maison de retraite, il y a les pâtes à Saint-François d'Assise, derrière le jardin de l'État, par exemple. Boulevard de la Providence, il y a les filles de Marie, on les voit aussi, elles aident dans diverses activités. Certaines sont enseignantes, et les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, par exemple, l'Immaculée Conception, à Saint-Denis. Oui. Voilà, sont des écoles qui étaient traditionnellement tenues par des sœurs, même si aujourd'hui, leur corps enseignant est assez laïque et varié. Donc, les sœurs peuvent faire différentes activités, mais elles ont la spécificité d'être religieuses, donc elles vivent selon une règle, il y a la vie ensemble, elles habitent ensemble et elles sont gouvernées par une supérieure, et à différents niveaux, local, régional ou international. Pour les hommes, c'est la même chose aussi, les hommes, c'est la même organisation, on va dire, du point de vue de la vie religieuse. Là où il y a une spécificité, c'est au niveau de la prière et de l'office. Oui. Et là, il faut faire une distinction entre la messe et ce qui relève du sacrement de l'ordre. C'est-à-dire, le sacrement de l'ordre, c'est le diaconat, être diacre, être prêtre et être évêque. Pour le faire plus simple, on va parler des prêtres. Eh bien, les prêtres, on connaît surtout par rapport au fait qu'ils vont célébrer la messe, ou ils vont... ce qui est propre aux prêtres, c'est célébrer la messe, c'est d'entendre les gens dans la confession, ou alors aussi de donner le sacrement des malades, par exemple, sont des éléments qui sont vraiment réservés aux prêtres, tout comme pour, par exemple, la confirmation, ou à l'évêque, qui plus est pour la confirmation. Et là, où seuls des hommes sont appelés pour ce service-là et peuvent officier dans ce sacrement-là. Après, il y a des sacrements, par exemple, le baptême. Principalement, habituellement, c'est un homme... Un prêtre ou un diacre qui baptise, ou un évêque, peut arriver, si un enfant est en danger de mort, par exemple, on baptise, une femme peut le faire.
D'accord.
Vous voyez, donc ça veut dire que il y a certaines fonctions liturgiques ou certaines célébrations qui sont réservées aux hommes, où ce sont les hommes qui vont diriger la prière, pour ne pas reprendre les termes qui ont été évoqués. Mais après, elle participe, mais simplement, la fonction du prêtre, elle va être de diriger. Pourquoi ? Très simplement, parce que c'est une question qui risque de revenir. Pourquoi des femmes n'ont pas accès au sacerdoce pour être prêtres ? C'est simplement parce que Jésus était un homme. La réponse la plus simple, la plus simple, c'est que Jésus était un homme, n'était pas une femme. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'histoire. Et le prêtre représente le Christ. Et donc, il exerce la fonction du Christ, il agit dans la personne du Christ, dans son ministère. C'est une réponse profonde, simple. Il y aurait d'autres arguments, d'autres éléments de réponse, mais je ne vais pas le développer ici. Ouais, mais c'est pour dire que voilà, c'est pas une question de dire que ah ben non, il y a une discrimination contre les femmes ou je ne sais quoi. Mais non, c'est vraiment parce que il y a effectivement ce rôle-là d'agir dans la personne du Christ, de le représenter dans les fonctions liturgiques qui représentent le Christ. Et une dernière chose, il y a par rapport à cela, ben la prière dans l'Église catholique ne se résume pas à la messe ou au sacrement. Il y a des assemblées de prière, il y a des offices, l'office du matin, l'office du midi, l'office du soir, et d'autres offices, je crois l'année dernière on en avait parlé un petit peu. Concernant les offices ou des assemblées de prière, des temps de louange, d'adoration, une femme, une intercession, une femme peut tout à fait diriger cette prière-là.
D'accord. Voilà.
Parce que, ça se passe dans l'église ou ailleurs, mais ça peut se passer dans l'église.
Elles peuvent très bien, elles peuvent officier.
Elles peuvent avoir un ministère de prédication, de prêcher, de prier, d'intercéder, etc.
D'accord. Comme qu'on en apprend tous les jours. Ouais. Alors, chez nos amis les juifs, comment ça se passe le rabbinat ? Est-ce qu'il y a des femmes rabbins ? Je pense que oui. S'il y en a, c'est super. Mais comment ça se passe chez vous ?
Dans le judaïsme, je précise, je parle vraiment du côté religieux. Sur le volet religieux, je ne rentre pas ni dans le côté laïque et dans la vie de tous les jours. Je parle vraiment
On est bien du côté religieux.
La loi juive. Oui. Et je précise aussi. Tu peux avoir d'autres écoles, comme les libéraux, les orthodoxes modernes, et il y a plein aujourd'hui de différentes écoles. Mm-hmm. Moi je suis, on va dire, vraiment orthodoxe, religion juive. Non pas orthodoxe, mais orthodoxe normale. Religion juive.
Oui, religion juive, comme nous on l'entend.
Après, il peut avoir des femmes rabbins, etc., mais on va dire d'autres écoles.
Oui.
Dans la religion, c'est très différent. Il y a un rôle très différent entre l'homme et la femme. Chacun a son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Chacun a son rôle. Chaque rôle est différent. Celui de la femme est peut-être même plus important parce que déjà, première chose, elle a le rôle de transmettre le judaïsme. C'est elle qui transmet le judaïsme aux enfants, que ce soit dans la pratique. C'est elle qui transmet le judaïsme, tout simplement, parce que l'enfant est juif. Il est juif si la maman est juive. Et l'éducation. C'est dans tous les couples, en général, c'est souvent la maman qui éduque les enfants et qui transmet à ses enfants.
C'est elle, en général, qui va déterminer la religion de l'enfant.
C'est elle qui transmet ce que l'enfant il va aimer faire. C'est elle qui transmet avec amour à son fils. Le père aussi, il transmet beaucoup à l'enfant. Mais la mère, ça va plus à l'intérieur de l'enfant, donc celle qui va transmettre la foi en Dieu, l'envie de faire la religion, sur le côté envie et pas le père, ça va être plus côté pratique, où il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. La maman, ça va être plus transmettre à l'enfant.
Et d'ailleurs, ça c'est un sujet entier à La Réunion, parce qu'il y a des couples multiculturels maintenant.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Est-ce qu'elles ont droit au rabbinat ?
C'est pour ça que, comme je disais, les rôles sont très différents.
Ouais, d'accord.
Voilà, le rôle de la femme, c'est plus sur l'éducation, c'est qu'il va transmettre le judaïsme. Le rôle de l'homme, il a d'autres rôles. Comme je dis, dans les lois aussi, les pratiques, c'est différent. Donc, il y a plein de métiers dans la religion que c'est pas pour les femmes. Et c'est que pour les hommes. Donc le rabbinat aide rabbin. Quand je dis aide rabbin, c'est aide rabbin dans la pratique. Le rabbin, il décide, il va trancher quand les fidèles ont des questions. Il va trancher si c'est bon ou c'est pas bon. Ça peut être qu'un homme, le rabbin, il peut être qu'un homme. Maintenant, la femme, elle peut étudier toutes les lois. Il faut qu'elle étudie, elle apprenne. Mais pour trancher si c'est cachère, pas cachère, c'est bon ou c'est pas bon, c'est un rabbin, c'est un homme. Il y a les juges aussi qui sont encore au-dessus des rabbins, c'est encore d'autres études plus longues qui vont juger, ils sont à trois minimum.
C'est comme les mouftis.
Ils vont vraiment juger des différends qu'ils peuvent avoir entre des personnes ou des grandes questions. Ça aussi, ça peut être qu'un homme. Il y a le métier aussi de scribe pour écrire. Ouais. Ça peut être qu'un homme. Faire la shrita pour égorger les animaux, ça peut être qu'un homme.
D'accord.
Circonciseur, ça peut être qu'un homme. C'est plein de métiers comme ça. Plus dans la pratique, ça va être, c'est que les hommes qui le font. Par contre, il y a plein d'autres métiers, surtout aussi dans l'éducation. Par exemple, souvent, on va voir c'est des directrices d'école que des directeurs d'école. On va avoir beaucoup plus de femmes s'occuper de l'éducation des enfants, avoir plus de responsabilités de ce côté-là que les hommes.
C'est-à-dire, c'est des.
Dans les écoles juives.
Les écoles juives. C'est pas religieuses. Spécialement les écoles religieuses.
Mais les écoles juives religieuses. Les écoles juives en général.
Et les deux sont comprises dans.
Oui, bien sûr. On fait les études laïques en même temps les études religieuses. L'école privée, hein, bien sûr. Sous contrat ou pas, mais en général, c'est sous contrat. Donc, il y a les deux études. Souvent, c'est les femmes qui vont être profs ou directrices. C'est eux qui vont avoir beaucoup plus ce lien à l'éducation voilà, pour les femmes. Mais après, la même chose dans les écoles, c'est séparé. Il y a l'école des hommes, l'école des femmes, c'est pas la même. On étudie à peu près la même chose, surtout quand on est petit. Les mêmes études, on va apprendre la même chose, la Torah, le Chumash, la prière, à lire, à écrire. Mais après, quand on va arriver vers l'âge de 13 ans pour les garçons, la bar mitzvah, bat mitzvah pour les filles, là on change un peu dans l'étude, on va pas étudier la même chose. Les filles, les jeunes filles vont plus se concentrer sur l'histoire, sur voilà, la foi, sur d'autres études, un volet du judaïsme que les hommes aussi doivent faire. Hein, mais ils vont plus se concentrer sur ça. Donc on va plus se concentrer sur les lois, sur la pratique, sur l'étude des lois du judaïsme. Voilà, donc c'est vraiment un rôle différent. Chacun est important.
Bien, comme quoi. Alors après, on va continuer. Comment les religions juives, catholiques et musulmanes encadrent-elles, on va dire, la sexualité, le mariage et le divorce ? C'est-à-dire que tout ça, c'est un peu lié, hein, le mariage. Alors, comment on encadre ça ? On va continuer avec Mendel. Comment c'est encadré, ça ? Comment c'est vu, le divorce ? Est-ce que c'est bien vu, pas vu, enfin, pour les femmes, etc. quoi.
Alors, effectivement, c'est une bonne question, la sexualité dans la religion. Les autres religions, la religion juive, pardon. La sexualité en soi, c'est pas tabou, et c'est au contraire, c'est quelque chose de très bien, d'important, et c'est comment une grande mitzvah, c'est une bonne action de les relations sexuelles. Mais c'est encadré, faut que ça soit encadré dans le cadre de la loi, pour avoir une relation qu'avec sa femme.
Ouais.
Parce que vraiment, on reste dans le cadre de la loi, c'est bien, quand c'est bien fait, c'est très bien, et avec amour, bien sûr, etc. Donc quand on reste dans le cadre de la loi, marié, même quand on est marié, on ne peut pas toujours avoir de relations. Il y a des périodes où on ne peut pas avoir de relations. Donc ça aussi, ça fait partie
je crois que c'est un petit peu partout pareil.
Voilà, c'est partie du cadre du mariage. Et donc, la sexualité, tant qu'elle reste dans le cadre, c'est très bien. Le divorce, c'est la même chose. Ça fait partie du cadre du mariage. On a le droit de se marier, on a le droit de divorcer. S'il y a l'envie d'un des deux parties qui veut divorcer, que ce soit la femme qui veut divorcer ou l'homme qui veut divorcer, eh ben, ils vont aller avec un rabbin, justement. C'est là où le rôle du rabbin, c'est lui qui va donner...
Il peut y avoir des mariages que religieux, alors.
Un mariage, c'est que religieux. Oui. Il faut faire le mariage civil avant, obligatoire.
C'est la loi.
Avant le mariage religieux. Mais après, oui, le mariage, c'est obligatoirement religieux. On ne peut pas se mettre en couple avec une personne. Et dire on est en couple. Et... encore une fois, dans la loi juive, ça veut dire que c'est... on n'a pas qu'ils ne sont pas en couple, ils vivent ensemble. Mais dans la religion, quelqu'un de pratiquant, de religieux, il va, après le mariage, habiter dans le même toit avec sa jeune épouse qui vient se marier. Mais pas avant.
Il y a quelque chose ou bien comment ça se passe pour les...
Non, à l'époque, il y en avait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a pas de dot.
Non.
Il y a des fois peut-être le beau-père qui achète une Rolex, mais bon, c'est pas chez tout le monde. Ceux qui ont les moyens.
Je
plaisante. Non, mais après, voilà, chacun. Le mari, il offre à sa fiancée des cadeaux et la fiancée à son futur mari des cadeaux. Et après, ça passe par la choupa, la festivité religieuse, et après, ils peuvent vivre ensemble et avoir des relations.
Chez les musulmans, ça se passe comment, le mariage, le divorce, les relations, etc.
Ben, c'est un peu pareil, hein. Donc, c'est cadré, les relations en mariage sont interdites. Mais bon, aujourd'hui, avec les réseaux, etc., c'est très compliqué. Donc, oui, donc, si on veut un mariage religieux, donc ça passe bien entendu par le mariage civil, et j'encourage bien entendu les femmes à le faire parce que c'est une protection civile également.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui se marient malheureusement sans faire de mariage civil, etc. entre eux.
Mm-hmm.
Non,
il y a un moment où ça
crache. Il n'y a pas d'annonce publique, enfin, parce que le mariage, c'est une annonce qu'on doit faire à toute la société, donc il y a quand même une pression sociétale aussi. Lui marier, qu'est-ce qu'il vient parler avec moi lui, enfin, donc après, ça. Voilà, donc après, bien entendu, il y a la question de la polygamie qui est interdite en France. Hein, je sais pas.
Bien sûr, oui.
Là-bas, il y a polygamie.
Dans le judaïsme, la polygamie a été interdite depuis à peu près 500 ans, 600 ans.
Christianisme, il n'y a pas. Non.
Je ne sais plus depuis quand, mais c'est depuis le début, on va dire qu'elle est interdite.
Donc voilà, donc il y a cette question-là qui. Bon, qui
et le divorce, alors,
mais avant, c'était permis.
Ça se passe comment, le divorce? Parce qu'après, il y a l'héritage, des questions, je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais.
Mais le divorce pareil.
On peut même faire sur deux émissions ça.
Mais le divorce pareil. Donc ça passe. C'est mieux de passer toujours par une institution officielle, par un imam, etc. Et voilà, c'est des questions qu'il faut pas prendre à la légère. Aujourd'hui, malheureusement, le taux de divorce augmente de manière exponentielle, pour un oui, pour un non. Et voilà, on trouve ça dommage, et vraiment réfléchir, tourner sa langue cette fois, même si elle ne peut pas tourner cette fois, mais...
Mais donc le divorce, lui, il est autorisé en islam, c'est pas...
Ah bien sûr, non, bien heureusement. Bien heureusement, je dirais.
Et chez nos frères catholiques, comment ça se passe chez vous là? Parce qu'il y a eu des sujets de temps en temps.
Chez nous, c'est très simple. Là, il n'y a pas de règles spécifiques à la femme ou à l'homme concernant la sexualité ou le mariage. Chacun est tenu, normalement, de ne pas avoir de relation intime en dehors du mariage, que ce soit avant le mariage ou en trompant sa femme ou en trompant son mari, d'une part, l'adultère, et ni si on n'a jamais, si d'un point de vue civil, je précise, on a divorcé, eh bien on est tenu de ne pas avoir de relation intime avec celui ou celle avec qui on refait sa vie, par exemple.
Ouais.
Après, ça c'est la loi, c'est ce qui est l'idéal. Dans la pratique, beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes ne respectent pas cela, mais ce que dit l'enseignement de l'Église catholique sur cela, c'est que les relations intimes ne sont légitimes et autorisées que dans le cadre du mariage. Évidemment, nous n'avons pas de mariage polygame, mais que le mariage monogame, un seul homme, une seule femme. Le mariage est indissoluble, c'est-à-dire dès lors qu'il a été consommé, personne, pas même le pape, ne peut dissoudre le mariage, donc le divorce est interdit. Les gens, ça peut arriver, comme je dis, c'est-à-dire qu'imaginons, prenons un cas de figure, on en parle beaucoup depuis quelques temps, parce que c'est devenu beaucoup plus public, on en parle davantage. Ben, une femme qui vit sous les coups de son mari et elle et ses enfants, ben oui, je l'encourage effectivement, et nous encourageons ces femmes-là à se protéger. Et cela doit passer par un divorce, évidemment. Mais en soi, hormis des cas un peu exceptionnels comme ça, chacun est tenu, même s'il y a infidélité, même s'il y a eu, je ne sais pas, une difficulté quelconque, on n'arrive plus à s'entendre, il y a des moyens déjà de prendre le temps de comprendre, de médiation, de communiquer, d'essayer de persévérer. Et toujours est-il que si divorce il y a de toute façon, point de vue civil seulement, eh bien du point de vue religieux, l'homme et la femme restent toujours devant Dieu unis. Et c'est parce que le Christ lui-même, en l'évangile selon Matthieu par exemple, selon le chapitre 19, dit, eh bien, à la question que posent des autorités juives, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Le Christ répond clairement, au commencement Dieu créa l'homme et la femme, il fit homme et femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, tous deux ne feront plus qu'un. Si donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, il déclare ainsi finalement que le mariage est indissoluble.
C'est peut-être pour ça que certains prêtres, certaines églises refusent le mariage à nouveau à l'église. C'est peut-être ça, non?
Pour qu'on puisse à nouveau se marier, il faut qu'un deuxième mariage, il faut qu'il y ait veuvage.
Ah, d'accord.
Si on devient veuf, on n'est plus lié à sa précédente femme ou à son précédent mari. Et donc, à ce moment-là, oui, un veuf ou une veuve peut se remarier.
Oui, bien sûr, mais si c'est juste un divorce parce qu'ils sont entendus.
Voilà. Après,
j'entends souvent dire qu'il ne pourra pas passer à l'église.
Il ne pourra pas passer à l'église. Et celui qui. Et là, j'enlève tout de suite une ambiguïté parce que peut-être beaucoup de catholiques entendent et écoutent aussi cette émission.
celui ou celle qui est divorcé, du point de vue du mariage, commet un péché, sauf dans les cas un peu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un peu de force et de nécessité pour se protéger, etc. Mmh. Néanmoins, celui qui n'a pas refait sa vie avec quelqu'un, qui n'a pas d'intimité avec quelqu'un, peut, même s'il est divorcé, communier et peut recevoir l'absolution. Mais dès lors qu'on partage sa vie avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme, on a des rapports intimes avec cette personne-là, à ce moment-là, on ne peut pas recevoir la communion, on ne peut pas recevoir l'absolution, ce qui n'empêche pas d'aller à la messe, de participer quand même à la prière. Mais il y a des certains éléments qui sont, par le fait même de ce qui est vécu, impossibles. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'on entend souvent « Oui, l'Église a annulé mon mariage. » On n'annule pas un mariage.
Enfin, moi, ce que j'entends, c'est... il va se marier, mais il peut pas passer, il peut pas repasser devant le à l'église.
Il peut pas se remarier. Mais il y a des gens qui disent aussi, ben moi j'étais marié avant, maintenant je suis à l'église et je peux me remarier. Mmh. En réalité, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est que dans cette situation, la question va savoir est-ce que quand je me suis marié avec Monsieur ou Madame Intel, toutes les conditions de validité pour que le mariage ait eu effectivement, que le lien sacré ait été constitué, ont été réunies. Donc certaines personnes demandent à l'Église d'enquêter sur un procès en nullité de mariage, qu'on appelle ça, pour vérifier est-ce que, ça fait déjà 20 ans que j'ai quitté mon mari ou ma femme, je refais ma vie avec quelqu'un, j'aimerais pouvoir me marier à l'Église, je ne peux pas, justement, normalement. Ça, ouais. Est-ce que je pense que mon premier mariage, pour diverses raisons, n'était pas valide? Est-ce que l'Église peut se prononcer là-dessus? Et l'Église fait une enquête là-dessus, et la réponse peut tout à fait être, effectivement, vous n'avez jamais été marié d'un point de vue du lien, parce que Il y a vice de procédure, si vous voulez, vice dans le fait, voilà. Ouais. Ou alors, vous, au contraire, ben non, nous avons enquêté, mais malgré tout, nous estimons que votre mariage est bien valide. Vous êtes toujours lié à monsieur ou madame Intel avec qui vous avez divorcé d'un point de vue civil.
D'où, donc vous ne pouvez pas vous remarier. D'où l'interdiction de certains de passer à nouveau devant...
Exactement.
Okay, comment d'accord. Vous savez si quelqu'un s'est marié à New York ou dans une église en Argentine?
On a tout un suivi de dossiers, il y a des registres, les gens sait que normalement, et entre différents diocèses, différentes églises, on peut se transmettre.
Ils ont tout un truc en dessous qu'on ne connaît pas.
Non, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger.
Il y en a qui se marient aux États-Unis, d'autres au Japon, ils ont 3-4 femmes dans le monde, et après ils arrivent.
J'avais une question pour Mendel, vous avez une période de viduité pour une période après divorce pour les femmes, avant qu'elles se remarient?
Alors que ce soit pour un décès du mari ou de la femme, ou un divorce, c'est 3 mois. D'accord. 3 mois pour, en fait,
4 mois et 10 jours,
3
en fait,
mois pour, tout simplement pour être sûr, si jamais elle retombe
elle est enceinte,
que ce soit bien du nouveau mari et pas de l'ancien. Que ce soit veuve pour être sûr, c'est qui le père.
Donc on va finir dans un instant l'émission. Donc on va aborder rapidement. Hein, parce que c'est un sujet quand même assez long et compliqué, je pense. L'héritage.
Ouh là là.
Ça veut dire l'héritage.
Comment les ça maisons... se passe? Est-ce qu'il y a comment vous encadrez l'héritage? C'est-à-dire que dans certaines religions, il y en a qui ont un tiers, deux tiers, trois tiers, enfin, par rapport à si c'est une femme ou un homme, la part n'est pas la même. Alors, comment ça se passe chez vous, les Juifs?
Alors, dans le judaïsme, encore une fois...
Je préfère
préciser qu'en France, quoi qu'il arrive, on fait la loi du pays. Donc, pour l'héritage, on suit la loi française. Voilà. Mais non, au niveau théologique, au niveau de la religion, parce que c'est des lois qu'on étudie justement quand on est à l'école, on apprend ces lois-là d'héritage, même si qu'aujourd'hui, ça ne va pas se passer en France. Hein, mais d'après la Torah...
Ça peut se passer en Israël, par exemple.
Même en Israël, ils font pas.
Ah bon?
Oui, ils vont quand même. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez,
non, mais ça, nous, on est là pour ça. Hein,
déjà, ça peut se faire. Le premier né, il prend double part.
D'accord.
Donc, imaginons, ils sont 5 frères. Mm-hmm. On partage l'héritage en 5, mais ils vont partager l'héritage en 6. Le premier né, il va prendre 2 parts. Et les 4 autres pour ces 4 frères. Ça, c'est le premier point. L'épouse. Elle prend, dans le contrat de mariage, la ketouva, c'est écrit qu'elle prend de quoi ils ont. Donc ça dépend. S'il y a un divorce, elle prend ce qu'il y a écrit sur la ketouva. En général, c'est 20 000 euros. Si le mari décède, les enfants ont le devoir de la nourrir et de la faire vivre par rapport à la ketouva qu'elle a, que son mari doit la faire vivre, sauf si elle se remarie. D'accord. Ensuite, pour les sœurs, si elles sont célibataires, elles doivent vivre, donc elles n'ont pas de